Bonsoir. Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler. Le Premier ministre a été très clair il y a quelques instants en expliquant la stratégie de son gouvernement face à l'épidémie de Covid-19. Opération Transparence accompagnée d'un certain nombre d'explications du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui prévoit notamment plus de 14 000 lits de réanimation à terme dans le pays et appelle les EHPAD à loger individuellement, quand c'est possible, leurs pensionnaires. Pour ce deuxième week-end de confinement, les opérations d'évacuation sanitaire s'accélèrent dans le Grand Est, par train, par autocar ou par hélicoptère. Les hôpitaux d'Île-de-France se préparent à la vague annoncée pour la fin de semaine. Partout dans le monde, les mesures de confinement sont renforcées. À New York, en Espagne, en Italie, l'Italie qui a dépassé ce soir le cap des 10 000 morts. Nouvelle édition spéciale donc sur le coronavirus jusqu'à 20h, avec dans le téléphone sonne comment lutter contre les excès en tout genre en période de confinement. Et c'est ce dont nous parlera également Christine Séméot dans sa vie connectée dans quelques instants.
France Inter. Nous devons collectivement faire face à un défi considérable. Car je veux vous dire les choses avec clarté et franchise. Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler.
Voilà, Édouard Philippe, il y a quelques instants, le Premier ministre a été clair dans son adresse aux Français, saluant à nouveau au passage l'action des soignants qui sont en première ligne, de tous ceux qui travaillent en deuxième ligne et de tous les Français qui sont en troisième ligne, des Français qui peuvent, dit-il, en respectant le confinement, participer à l'effort national contre l'épidémie. Édouard Philippe a justifié et expliqué la stratégie du gouvernement face à l'épidémie, en contestant d'ailleurs avoir eu un train de retard. Il suffit, dit-il, de comparer ce qui a été fait dans les pays voisins où les courbes de la contamination suivent à peu près les mêmes trajectoires. Pour la France, en tout cas, le principe était simple, il est simple. Il fallait préparer les hôpitaux à faire face en augmentant les places de réanimation, tout en confinant la population. Véronique Julia, quoi qu'il en soit, il l'a dit donc, les 15 jours qui viennent seront plus difficiles encore.
Oui, c'est ça. Les 15 prochains jours vont être très difficiles. Le nombre de cas double en ce moment tous les 3-4 jours en France. Le Premier ministre insiste donc sur l'importance du confinement. Il n'y avait que 5000 places en réanimation en France au mois de février. Il faut donc par tous les moyens empêcher qu'on dépasse en nombre de cas ce que le système hospitalier est capable de supporter. Le confinement est justement fait pour ça. En confinant, on casse la chaîne de contamination. En temps normal, un malade peut infecter en moyenne 3 personnes. Avec le confinement, on arrive à moins d'une contamination par malade et l'épidémie peut donc s'éteindre. D'après l'épidémiologiste Arnaud Fontanet qui est intervenu tout à l'heure, on pourra juger de l'effet du confinement décidé le 17 mars dernier en fin de semaine prochaine. On sera alors à 3 semaines de confinement en France. Ça fait 2 semaines d'incubation plus 1 semaine pour les malades qui s'aggravent au 7e jour. Le nombre d'entrées en réanimation s'il diminue sera bien la preuve que ça marche.
Alors à la suite du Premier ministre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui a promis de mettre les bouchées doubles, s'agissant notamment des matériels.
Oui, sur le matériel, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que le nombre de lits en réanimation va être porté à 14 000 lits en avril. C'est 3 fois plus que la capacité initiale. Pour équiper ces lits, 1000 respirateurs viennent d'être commandés à Air Liquide et 25 respirateurs viennent d'être livrés au Grand Est depuis l'Allemagne. Sur les médicaments, notamment les sédatifs en réanimation, le gouvernement reconnaît que c'est très tendu et que les autorités font ce qu'elles peuvent. D'après Olivier Véran, la demande de ces médicaments aurait augmenté de 2000% depuis le début de la crise. Enfin, pour les masques, plus d'1 milliard de masques ont été commandés avec un pont aérien établi avec la Chine. À peu d'impuissance de notre capacité à produire des masques. La France en produit 8 millions par semaine, mais elle en consomme 40 par semaine.
Véronique Julia, sur ce sujet des masques, on en reparlera dans quelques instants, mais d'abord à propos des EHPAD. Après avoir interdit les visites, le ministre de la Santé veut aller encore un peu plus loin. Il lance un appel aux responsables de ces établissements pour personnes âgées.
Nous devons aller plus loin pour protéger ces personnes âgées particulièrement fragiles et prendre des décisions encore plus difficiles. Je pense, en disant difficile, au personnel des EHPAD, mais aussi aux personnes âgées elles-mêmes et à leurs familles. Je demanderai aux établissements de type EHPAD de se préparer à aller vers un isolement individuel de chaque résident d'EHPAD dans les chambres. Certains établissements le font déjà sur le territoire national, de manière à protéger les personnes résidentes des EHPAD de la dissémination du virus. Je demanderai également que nous puissions tester en priorité pour le virus le personnel qui travaille au sein des EHPAD. Et enfin, partout où ce sera possible, j'encouragerai toute démarche pour que le personnel qui travaille sans relâche déjà au sein des EHPAD puisse le moins possible sortir de cet établissement pour prendre le moins de risques qu'ils reviennent avec le virus et prennent le risque de contaminer le personnel.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a quelques instants. Je veux vous dire ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. C'est donc une opération de transparence qu'a voulu faire cet après-midi le Premier ministre, qui a dit ne pas chercher à justifier l'action de son gouvernement, parce qu'il sait bien, Karine Bécard, il l'a dit d'ailleurs, il sait bien que le moment venu, toutes les questions et les leçons devront être tirées. En attendant, eh bien, il a repris la main, en quelque sorte, sur la communication du gouvernement.
Oui, exactement. Et on a assisté à un changement de ton total ce soir de la part de l'exécutif par la voix du Premier ministre. Édouard Philippe n'a pas cherché à être rassurant comme il l'a fait à chacune de ses interventions jusqu'à maintenant. Non, le chef du gouvernement, en tenant ce discours de vérité, est tout à coup apparu avec beaucoup plus d'autorité. Et cette fois, tout le monde a compris que la situation était extrêmement grave. Le combat ne fait que commencer, a expliqué le Premier ministre avec les traits tirés. Les mots qu'il a utilisés n'avaient jamais résonné aussi fort. Tout a été dit, le visage fermé et avec une très grande fermeté. Donc un changement de ton, oui, incontestablement. Et la décision, visiblement, d'être désormais parfaitement transparent, une transparence devenue nécessaire pour que les Français acceptent de lui faire confiance, ce qui est peu le cas pour l'instant. Je rappelle qu'ils sont un tiers seulement, selon notre étude Doxa, à suivre le gouvernement. Le Premier ministre, ce soir, n'était donc pas là pour faire de la politique, non pour vaincre cette épidémie. Édouard Philippe sait qu'il doit convaincre tout le monde pour avoir chaque Français derrière lui.
Karine Bécard, Édouard Philippe et le ministre de la Santé qui sont toujours en conférence de presse et devraient annoncer dans quelques instants le bilan de la journée. En attendant, les hôpitaux sont sous tension dans plusieurs régions de France, on le sait, le Grand Est, les Hauts-de-France et peut-être bientôt l'Île-de-France, où l'inquiétude est grande face à la vague annoncée pour la fin de semaine. Les soignants se demandent s'ils pourront faire face. Des soignants qui sont pourtant habitués au pire, mais qui pour la plupart disent n'avoir jamais vécu situation pareille, comme a pu le constater Timur Öztürk à l'hôpital Tenon à Paris.
12 heures au chevet de malades au bord de l'asphyxie. Coralie, 30 ans, sort éprouvée de sa garde aux urgences de l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement de Paris.
On voit les patients, ils sont graves et on a peu de ressources thérapeutiques. On peut soulager les gens, mais sauver des vies, malheureusement, c'est le temps qui nous le dit. C'est assez inédit, hein, mais ça fait bizarre de le dire, mais de le vivre, c'est encore vraiment plus étrange.
En renfort auprès de ses collègues urgentistes, Coralie est médecin en cancérologie. Les décès de patients, elle connaît, mais pas comme ça.
C'est une spécialité où on est régulièrement, malheureusement, confronté à la fin de vie. Il y a souvent du temps pour se préparer à ça, pour accompagner les gens. Là, le temps d'accompagnement, il est raccourci. C'est quelques jours, quelques heures. Et ça, c'est très dur.
L'angoisse d'être débordé prend également les soignants. Le nombre de places en réanimation atteint ses limites.
On commence à probablement arriver à saturation, même si on ne l'est pas encore. Les décisions qu'on prend aujourd'hui ne sont pas celles qu'on prenait il y a 3 semaines. J'espère qu'elles ne seront pas différentes et pas pires la semaine prochaine ou dans 15 jours, mais je ne sais pas.
À l'hôpital Tenon, ceux qui en ressentent le besoin peuvent s'adresser à leurs collègues psychologues.
Face au risque de saturation des hôpitaux dans le Grand Est, cette fois un premier transfert par hélicoptère militaire a été opéré ce matin vers l'Allemagne. 2 patients évacués de Metz, direction l'hôpital d'Essen. Demain, ce sont 2 TGV médicalisés qui transporteront 24 patients vers la Nouvelle-Aquitaine. Hier, c'est par car que 7 malades ont été transférés du CHU de Reims vers Orléans. 1 milliard de masques ont donc été commandés à la Chine. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a confirmé tout à l'heure. La Direction Générale de la Santé précise qu'un pont aérien sera mis en place entre les deux pays, soit 56 rotations, 4 vols par semaine. Les masques seront répartis dans les entrepôts de santé publique France à travers le pays. Et c'est plus qu'urgent dans les hôpitaux, mais aussi pour tous les personnels de santé, notamment les auxiliaires de vie qui sont en manque cruel de protection. Tous ceux qui se déplacent au domicile des personnes âgées ou handicapées, notamment l'angoisse au ventre. Illustration dans le Finistère, Jérôme Val.
Dans le secteur des Monts d'Arrée, dans le Finistère, ce sont 800 personnes âgées ou handicapées qui attendent tous les jours la visite d'une salariée de l'ADMR, l'Association d'aide à domicile en milieu rural. Marie Carmarec en est la responsable locale.
Si elle n'intervenait pas, il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de faire leur repas. Enfin, s'il n'y avait pas les aides à domicile, ce serait une vraie catastrophe, quoi.
Pour ces tournées sur une trentaine de communes, les salariés ont trop peu d'équipements de sécurité. Les masques, les blouses, les surchaussures, tout manque. L'association a lancé un appel aux dons.
Souvent, ce qu'elles me disent, les filles, c'est « oui, mais j'ai peur de transmettre aux personnes. C'est même pas elles qu'elles mettent pour qu'elles ont peur. C'est un métier qui a toujours pâti d'une non-reconnaissance, il faut le dire, hein, c'est clair. Et là, on avait l'impression que c'était un peu les parents pauvres.
Et c'est aussi ce que dénonce la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France. Elle représente 1 400 000 salariés. Le gouvernement lui a promis des masques. Promesse non tenue, s'énerve sa présidente Marie-Béatrice Levaux.
On nous dit qu'un certain nombre de professionnels de santé vont pouvoir aller chercher leurs masques à la pharmacie. Mais que pour les assistantes de vie et le secteur de l'aide à domicile, il y aurait un autre circuit. Je ne vois pas de quel autre circuit on pourrait parler. Dans la plupart des territoires, et en particulier ruraux, il n'y a pas d'autre dispositif de distribution que la pharmacie locale.
Et si quelques masques sont distribués, leur nombre reste insuffisant pour tenir sur plusieurs semaines.
Jérôme Val, se souviendra-t-on au fait de la façon dont tout cela a commencé? On a parlé au début de l'épidémie du Rassemblement évangélique de Mulhouse en février, qui fut l'un des premiers et des principaux foyers de contamination en France. On évoquait à l'époque une centaine de fidèles qui pouvaient avoir transporté le virus partout en rentrant chez eux. Mais c'était pire que ça. Comme le révèle aujourd'hui la cellule investigation de Radio France, n'est pas une centaine, mais plus d'un millier de fidèles qui s'étaient donné rendez-vous à Mulhouse, Laetitia Chérel.
Lors de ce rassemblement, aucun registre n'a été tenu. Impossible donc sur le moment de tracer les participants. L'Agence régionale de santé du Grand Est estime aujourd'hui que ce sont 1200 personnes et non pas une centaine qui ont été contaminées. Mais le pasteur et médecin Jonathan Peter Schmidt, organisateur du rassemblement, pense lui que c'est près de 2000 personnes qui l'ont été.
Je dirais qu'on peut parler de largement la majorité des personnes qui étaient sur site ont été contaminées. Pourquoi? Simplement le nombre de personnes qui, après coup, quand l'alerte a été donnée, se sont révélées être soit positives, soit se sont révélées être malades dans la foulée.
L'Église se défend de ne pas avoir respecté des consignes qui n'existaient pas à l'époque. La preuve, le 18 février, dehors, à une centaine de mètres de là, Emmanuel Macron, en déplacement, serrait des dizaines de mains, dont celle d'une habitante du quartier qui n'était pas évangélique et qui était en période d'incubation du virus. C'est le docteur Vogt, un médecin de Mulhouse, qui nous le raconte.
Une dame qui était présidente d'une association à Mulhouse et qui avait été dans le cortège avec M. Macron. Elle dit « j'étais à proximité de M. Macron, je lui ai serré la main, j'ai dit à la salle de réunion ». Elle est tombée malade le lendemain de la visite de Macron, elle était malade. Et elle m'a dit « et mon fils est tombé malade un peu après ». Donc vous voyez, il y avait des gens dans l'entourage proche de M. Macron qui sont tombés malades le lendemain, quoi.
Ce jour-là, Emmanuel Macron a donc multiplié les accolades sans savoir qu'il était peut-être à proximité de personnes contaminées.
19h13 sur France Inter, c'est le journal d'Yves Decamp.
Le pic de l'épidémie est encore loin dans l'Hexagone. Il est annoncé pour la fin de la semaine prochaine. Il n'est peut-être plus très loin en Italie, où le bilan sur 24 heures n'a jamais été aussi lourd. Près d'un millier de morts supplémentaires hier, 889 aujourd'hui. Et le cap des 10 000 morts est maintenant dépassé dans la péninsule. Comme en Espagne, où les chiffres ont encore bondi avec 832 décès de plus. L'Espagne en confinement strict depuis 14 jours et qui compte aujourd'hui près de 5 700 morts, au point qu'une deuxième morgue devra être installée à Madrid dès lundi. C'est dans une Espagne fantôme qu'a circulé ce samedi l'envoyé spécial de France Inter, Marie-Pierre Véraud.
Lorsque l'on quitte Madrid, un silence irréel englobe un paysage quasi vidé de toute présence humaine. Nous étions aujourd'hui dans la Rioja, quelques 300 km au nord de Madrid. En 300 km, nous avons peut-être croisé 10 véhicules. Les champs sont vides. Les montagnes arides ne sont plus survolées que par des oiseaux. Le ciel lui-même n'accueille plus d'avions. On croise des oies qui se pavanent sur la route, oublieuses des humains. Des moineaux posés sur le ruban vide de l'autoroute. Quelques stations-service où l'on ne peut plus prendre un café. Et ces hameaux aux maisons de pierre si soignées où ne vivent qu'une poignée d'anciens qui ne sortent même plus faire leurs courses. Vides eux aussi. Un chien passe. On entend bien quelques bruits de conversation qui s'échappent des fenêtres à l'heure du repas. Mais on ne voit personne. Arnedillo, Pelo Blasco. Normalement, avec ce soleil de printemps, les terrasses sont pleines, les sources d'eau chaude attirent les madrilènes, me confie une habitante qui se hâte de rentrer chez elle. Mais aujourd'hui, seuls quelques piétons portant un masque glissent sans bruit de la boulangerie à leur domicile. La vie est comme suspendue. Dans la Rioja, Laurent Macchietti, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Au Royaume-Uni, plus de 1000 morts, c'est officiel, 260 nouveaux décès ces dernières 24 heures. L'épidémie s'accélère dans le pays dont le Premier ministre et son ministre de la Santé sont confinés pour infection supposée au Covid-19. Mais aujourd'hui, c'est aux États-Unis que le nombre des contaminations s'envole. Plus de 100 000 cas confirmés, près de la moitié dans l'État de New York où plus de 500 personnes sont mortes hier. Et là aussi, pour éviter l'engorgement des hôpitaux, déjà en partie débordés, la population a été confinée. Loïc Loury, jamais la ville n'avait été si calme.
À New York, le week-end sera pluvieux, raison de plus de ne pas mettre le nez dehors. Depuis une dizaine de jours, la métropole ressemble à une ville morte et à l'exception des livreurs omniprésents, les rues sont parfois quasiment désertes, cafés, bars et théâtres fermés, des embouteillages qui ne sont plus qu'un souvenir. À Manhattan, même le balai des hélicoptères s'est calmé et les choses pourraient aller plus loin. Les autorités serrent chaque jour un peu plus la vis pour empêcher tout rassemblement. Des dizaines d'arceaux de basketball notamment ont été retirés des terrains de sport. La mairie réfléchit désormais à une amende pour ceux qui ne respectent pas les ordres de confinement. Objectif, limiter la pression sur des hôpitaux déjà surchargés à pourtant 2 semaines au moins du pic de l'épidémie. Un navire hôpital flanqué d'une gigantesque croix rouge sera amarré lundi dans l'ouest de Manhattan. New York, Loïc Loury, France Inter.
3 milliards de terriens sont aujourd'hui confinés sur la planète, c'est du jamais vu. La bonne nouvelle et la source d'espoir, si l'on veut, c'est que Wuhan, la ville de Chine où était apparu le virus en décembre, sort à peu près du confinement après 2 mois d'isolement strict. Le métro a été partiellement remis en service et des personnes venues de l'extérieur ont pu entrer en ville et retrouver leur famille. Allez, en cette période de confinement, attention à ne pas céder plus facilement encore que d'habitude aux excès en tout genre. C'est votre sujet dans le téléphone sonne, Alexandra. Attention aussi à ne pas céder plus que d'habitude aux facilités de la vie en ligne. Pour les devoirs des enfants, les concerts offerts par les artistes, les courriels, les messages WhatsApp. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce qu'on risque à ce régime-là ?
On risque épuisement et burn-out, ce qui est bien le comble de la situation, que le cerveau se mette en rideau. Écoutez Caroline Cuny, professeure à Grenoble École de Management et surtout docteur en psychologie, coordinatrice d'un guide contre la sursollicitation numérique.
C'est un peu comme si le cerveau pouvait à un moment donné s'arrêter de fonctionner de façon optimale et commencer à faire des choses qui ne sont pas de l'ordre du fonctionnement normal. Certaines personnes, par exemple, en burn-out, vont perdre l'utilisation d'un sens. Par exemple, perdre la vision. Donc, ils ne deviennent pas aveugles parce que les yeux ne fonctionnent plus, ils deviennent aveugles parce que le cerveau ne traite plus toutes ces informations qui arrivent.
Avant d'en arriver là, il faudra mettre la vie numérique en pause et les connexions en berne. Stopper les notifications, les gling, les ding-ding qui imposent de s'arrêter, de penser. Et concentrez-vous sur un seul travail à la fois. Prévenez bien tout le monde que vous avez désactivé vos notifications. Et enfin, fermez tout.
Parfois, on peut avoir l'impression que ceci va diminuer notre performance puisqu'on a quand même cette impression que quand on répond immédiatement, c'est quelque chose qui est fait et hop, on va pouvoir passer à autre chose, on a été efficace. Sauf que, en fait, ce processus de désengager l'attention, réengager plus tard, etc., ça nous perd du temps et parfois ça nous fait faire des erreurs. Donc, il faut, pour rester efficace, garder des moments où on va pouvoir être hors sollicitation, concentré, et des moments où on va pouvoir être hors sollicitation pour régénérer notre charge mentale, c'est-à-dire prendre une pause et laisser notre esprit divaguer.
Divaguer, cela veut dire tout débrancher, fermer les yeux, aller se promener mentalement dans un endroit où l'on se sent bien. Allez, je compte jusqu'à 3. Il y a 3. On aura tout éteint.
Oui.
1, 2, 3.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on risque quand on a tout éteint? Je veux dire, comment fait-on pour survivre, Christine?
Survivre est bien le mot quand, dans la même minute, vous aurez dû répondre à un message WhatsApp de votre directrice, ne pas louper l'envoi des devoirs par la maîtresse, surveiller une réponse attendue en provenance d'un collègue, recevoir un courriel de la banque et se demander s'il était vraiment important, se voir aussi notifier une newsletter à laquelle on est abonné et, je complète le tableau parce que ça n'est pas tout, en plus de cela, en fond sonore, les enfants font défiler des vidéos sur YouTube, le conjoint écoute les infos à la radio parce qu'Édouard Philippe va peut-être dire quelque chose d'important. Et vos vieux parents téléphonent de l'autre bout de la France et il est important de savoir comment ils se portent.
Christine Siméon, le numérique à consommer bien sûr avec modération. Chronique Ma vie connectée à retrouver sur franceinter.fr. On y lira notamment en intégralité le guide écrit par Caroline Cuny. Halte à la sursollicitation numérique. En vous rappelant l'information de la soirée, cette adresse aux Français du Premier ministre, le combat ne fait que commencer, a dit Édouard Philippe. Les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler. Le Premier ministre qui vient de conclure son intervention en forme d'espoir.
Ce combat va durer. Un combat qui dure, c'est un combat que l'on gagne en faisant preuve de discipline. Un combat qui va durer, on le gagne en étant concentré, tout à sa tâche. C'est un combat que nous allons gagner grâce à l'innovation, à la recherche. Et la France est à la fois armée et elle n'est pas seule. Et puis c'est un combat que nous allons gagner si nous conservons, enraciné au fond de nous-mêmes, si nous savons l'exprimer, à côté de la lucidité, l'espoir. L'espoir parce que nous finirons par sortir de cette crise sanitaire. Nous allons la traverser et nous allons continuer à construire notre pays.
Voilà le Premier ministre qui continue de répondre aux questions des journalistes.
C'était le journal d'Yves Decaen. Dans un instant, le téléphone sonne. Deuxième partie, il sera question d'addiction. L'alcool, le tabac, les médicaments, la drogue, les jeux vidéo, la nourriture. Vous commettez des excès pendant ce confinement. Est-ce normal? Comment éviter le dérapage? Et si on est déjà dépendant, comment se faire accompagner, même confiné? Tous les outils pour nous poser vos questions, pour témoigner, pour raconter sont entre vos mains, chers auditeurs, chères auditrices. 01 45 24 7000, hashtag Telson et puis l'adresse mail telson@radiofrance.com. Et la météo, elle s'écrit comment? Est-ce qu'elle s'écrit en gris, en noir, en couleur? On regarde ça avec Jean-Michel Golinski.
Au lever du jour, il n'y aura généralement pas de gelée sous abri en plaine. En journée, sauf dans le quart sud-est qui va conserver 16 à 20 degrés. Ailleurs, les valeurs vont baisser de plusieurs crans avec une moyenne de 8 degrés dans la moitié nord du pays, des températures sous abri car exposées au vent de nord-est très turbulent vers 70 km à l'heure, le ressenti se rapproche de 4 degrés. Dans le sud-ouest, il est prévu 11 à Lyon et Bordeaux et 15 à Toulouse. Avec un ciel plutôt bien dégagé ce dimanche dans le golfe du Lion, mais avec un mistral et une tramontane à 70 km à l'heure. Sur le reste du pays, pluie ou ondées seront le lot commun de la journée, avec de la neige à basse altitude sur les Vosges et le Massif central, plus haut sur les Alpes et les Pyrénées, des chutes de neige qui vont se produire de plus en plus bas dans la nuit de dimanche à lundi, voire même jusqu'en plaine.